Suivez Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui vous accompagne en vacances, au bureau, au village, à la maison, où que vous soyez, pour que 2021 soit une année digitalement excellente. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La pandémie de Covid-19 continue d'avoir des conséquences sur l'ensemble des systèmes de santé de la planète, y compris dans les régions où cette maladie émergente a moins durement frappé les populations. Très rapidement, l'Organisation mondiale de la santé s'est inquiétée des risques pour la prise en charge d'autres maladies, en particulier le paludisme, cette maladie parasitaire à qui l'Afrique subsaharienne paye le plus lourd tribut, puisque le continent à lui seul concentre plus de 90% des cas. Pourtant, une réelle amélioration avait été observée au cours de la décennie précédente, baisse sensible de l'incidence qui a été enregistrée, mais ces progrès ont marqué le pas ces deux dernières années et l'on s'interroge aujourd'hui sur les conséquences que pourraient avoir ces presque 12 mois de crise sanitaire qui ont perturbé la prévention et éloigné beaucoup de patients des centres de soins, notamment par crainte d'être contaminés. L'irruption brutale du péril infectieux dans les pays développés ne doit pas faire oublier que pour de nombreuses régions du monde, cette réalité n'a jamais cessé. En revanche, les moyens déployés et l'exigence de résultats sont sans commune mesure et l'on peut se demander pourquoi. Pourquoi alors que les outils et les messages de sensibilisation sont connus pour lutter efficacement contre le paludisme, l'impulsion indispensable pour arriver à en réduire le fardeau, cette impulsion, elle se fait toujours attendre. Sensibilisation, prévention du paludisme. En cas de crise, quel traitement? Comment se soigner? Deux invités avec nous en direct. Professeur Olivier Bouchaud, bonjour. Vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne à Bobigny en région parisienne et en ligne du Burkina Faso. On vous retrouve, docteur Gloria Bergès d'Amoaliga, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin généraliste, chef de service des urgences et de médecine générale à l'hôpital Chifra à Ouagadougou. En fin d'émission, on va parler de la fièvre jaune avec l'essai vaccinal conduit par MSF au Kenya. Une dose fractionnée efficace pour améliorer la couverture en cas d'urgence. Explication tout à l'heure avec la directrice de recherche d'Épicentre pour Médecins Sans Frontières, Rebecca Grace.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Olivier Bouchaud, j'évoquais à l'instant ces craintes de l'OMS en matière d'impact de la crise sanitaire sur la prise en charge du paludisme. Est-ce qu'on a déjà un petit peu de recul pour tirer des premières conclusions?
Alors sur l'impact de cette crise Covid, pour le moment non, c'est trop tôt. On n'a déjà pas une vision très claire de ce qui se passe en matière d'impact du Covid, notamment en Afrique. Donc la conséquence indirecte du Covid sur les autres pathologies et notamment sur le paludisme, on n'en a pas encore de bilan clair. Tout ce qu'on sait, c'est que l'attention des autorités de santé est détournée et se focalise sur le Covid, et l'attention des citoyens est aussi détournée, et la crainte d'attraper le Covid détourne logiquement les gens, même si c'est pas forcément une très bonne, une attitude souhaitable, d'aller dans les centres de santé quand il y a besoin. Or, on sait qu'en matière de paludisme, et c'est particulièrement vrai chez les enfants qui sont pas encore protégés par l'immunité, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure, j'imagine, plus on va précocement se faire traiter, et moins on a de risques que ça évolue mal et que ça évolue vers les formes graves et la mortalité possible.
On rejoint le docteur Gloria Bergès dans quelques instants. On lui demandera justement si au niveau de son hôpital, à Ouaga, les consultations, on va dire, palus ont diminué ou non. On a une première question qu'a posée sur la page Facebook de l'émission Edmond, d'Abomey Calavi au Bénin. Je vous la pose, cette question, elle est toute simple. C'est une question de base. Est-ce que les piqûres de moustiques sont les seules causes du paludisme?
Alors on va dire oui, c'est pas totalement vrai parce qu'il peut y avoir des moyens tout à fait accessoires de transmission du paludisme, mais l'immense majorité des paludismes sont causés par la piqûre d'un moustique bien particulier qui s'appelle l'anophèle et qui transmet le parasite.
Et qui peut transmettre par contre différents parasites, il y a différentes formes de paludisme.
Oui, il y a différentes formes de paludisme. Pour ce qui est du paludisme humain, puisque les animaux peuvent aussi être infectés par des parasites du paludisme, mais pour ce qui est du paludisme humain, il y a 5 parasites différents qui donnent à peu près la même maladie, c'est-à-dire de la fièvre et des signes qui ressemblent un petit peu à la grippe, mais tous n'évoluent pas de la même manière. Par exemple, le Plasmodium falciparum, qui est de loin le plus répandu, et notamment en Afrique, malheureusement est celui qui peut évoluer vers les formes graves et peut entraîner la mort, alors que les autres espèces peuvent donner quelques formes graves, mais beaucoup moins fréquemment. Par contre, des parasites comme le Plasmodium vivax, qui est peu présent en Afrique de l'Ouest, mais qu'on retrouve dans d'autres zones d'Afrique, notamment dans l'Est, et beaucoup en Asie et en Amérique latine, peut donner ce qu'on appelle des réviviscences, c'est-à-dire que le parasite reste à l'intérieur de l'organisme, notamment dans le foie, et peut se réactiver plusieurs mois ou plusieurs années à distance.
Ça ressemble à une maladie chronique.
Ça ressemble à une maladie à rechute.
Mmh, à rechute. On vous a retrouvé, hein, docteur Gloria Berges d'Amoaliga. Je posais la question sur l'impact global de la prise en charge du paludisme, bien sûr l'impact de la crise Covid, même si il n'y a pas eu, on le sait, hein, dans les hôpitaux du Burkina Faso, une situation identique à celle qu'on a connue notamment en Amérique du Nord ou en Europe. Malgré tout, est-ce que vous avez constaté une baisse des consultations pour PALU, là où vous exercez, à l'hôpital Chifra de Ouaga?
Merci Caroline. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur qui disait tantôt que l'attention des uns et des autres peuvent être détournées du paludisme avec la peur d'attraper le Covid. Mais cependant, on reçoit toujours des patients qui présentent des symptômes et on fait l'effort, oui, dès qu'on a les symptômes qui orientent vers le palu, de toujours faire une goutte épaisse ou TDR pour éliminer le palu avant de chercher d'autres causes. Donc les symptômes sont toujours là, nous avons toujours des cas de paludisme, quand bien même au Burkina, à l'heure actuelle, ce n'est pas la saison hivernale, mais on a quand même des cas de paludisme.
Et ces tests de diagnostic rapide dont vous nous parlez, docteur Berges, aujourd'hui, ils sont accessibles vraiment dans un hôpital comme le vôtre?
Au-delà des tests de diagnostic rapide, nous avons un laboratoire dans l'hôpital où j'exerce pour faire la goutte épaisse. Cependant, dans les CSPS ou dans les CMA, des petits centres de santé, c'est assez accessible ces PDR et les agents de santé, les acteurs sont habitués à les réaliser. Et en première intention, dès qu'il y a une fièvre au-delà de 37,5, parce que nous avons des directives nationales et les uns et les autres sont formés justement à appliquer ces directives-là. Et au-delà de 37,5 de fièvre pendant 2 jours, quand le patient arrive, tu sais que tu dois faire un TDR avant.
Et dans un pays comme le vôtre, le Burkina, est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce qu'il y a des enquêtes épidémiologiques au sujet du palu? On connaît la prévalence de cette maladie parasitaire?
Oui, parce que dans le rapportage donné chaque semaine à les PLO, nous devons rapporter les cas de paludisme chaque semaine. Peu importe les structures dans lesquelles vous êtes, que vous soyez en hôpital ou en CSPS ou en CMA, il y a toujours ce rapportage donné. Et c'est vrai que je n'ai pas les données de 2020 récentes, mais le paludisme demeure la première cause de consultation, la première cause d'hospitalisation et même la première cause de mortalité de maladies infectieuses. Donc, pour ça, il y a des données, il y a un programme national qui est là, il y a un plan stratégique qui est mis en place et révisé assez régulièrement. Malheureusement, je n'ai pas ces données ce matin pour les communiquer, mais sinon, il y a des données et que l'on transmet même à l'OMS.
Tout à l'heure, on a parlé justement de la transmission par le paludisme. Derrière cette question, professeur Olivier Bouchaud, derrière cette question d'Edmond, autre question, là c'est Grâce, elle nous écoute en RDC, elle pose une question là encore très simple. Est-ce que le paludisme est contagieux? Parce qu'on se dit, quand on a à côté de soi, par exemple quand on dort, quelqu'un qui a fait une crise de palu, est-ce que si un moustique pique cette personne et me pique à mon tour, eh bien est-ce que j'ai un risque de contracter le paludisme?
Alors là, c'est un problème de mots. Si on veut être strict sur les mots, la contagion sous-entend qu'il y a une transmission directe. Par exemple, la grippe est contagieuse.
Interhumaine.
Parce que, interhumaine, si on tousse et qu'on a une personne en face de soi, elle va attraper la grippe et la développer quelques jours après. C'est le cas du Covid également. En matière de paludisme, c'est pas une contagion dans ce sens-là. Mm-hmm. C'est une transmission, mais qui ne peut se faire que par le moustique anopheles, et ça peut pas être immédiat, parce qu'il y a toute une phase de maturation du parasite à l'intérieur du moustique. C'est-à-dire, si deux personnes sont dans le même lit, qu'un moustique pique une personne et va piquer tout de suite après le voisin, dans l'hypothèse où la piqûre du premier aurait été incomplète, parce qu'en principe, une anopheles, quand elle pique, c'est pas pour le plaisir, c'est pour prélever du sang. Mm-hmm. Une fois qu'elle a prélevé la quantité suffisante, elle a aucune raison d'aller repiquer quelqu'un d'autre. Mais mm-hmm. si elle a été interrompue dans son repas, elle pourrait aller piquer la personne juste à côté, dans le même temps. Et là, le parasite peut pas se transmettre dans les quelques minutes qui pourraient être dans l'intervalle des deux piqûres.
Il y a peut-être une exception, transmission interhumaine. On parle transmission mère à l'enfant, là, il y a un risque de contamination.
Alors oui, mais ça c'est un cas très particulier, c'est en pratique très très rare. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que dans l'immense majorité des cas, c'est le moustique. Mm-hmm. Il y a un autre cas qui est la transfusion, même si on essaie de contrôler au maximum les lots de sang, où là il peut y avoir une transmission directe par l'intermédiaire du sang. Et d'ailleurs, dans la transmission mère-enfant, c'est par l'intermédiaire du sang ou à travers le placenta, mais ça passe aussi par le sang.
Docteur Bergès, en préparant cette émission, j'ai lu que les risques étaient plus importants lorsqu'il s'agit d'une première grossesse pour la femme enceinte. Pourquoi ?
Toutes les grossesses avec paludisme, ce sont des grossesses à risque. Je ne pense pas que ce soit seulement le fait que ce soit une première grossesse. Il y a le risque pour la femme enceinte, mais il y a surtout le risque pour le nouveau et le l'embryon. Mm-hmm. Voilà, parce que la femme n'est pas bien soignée, nous pouvons avoir des conséquences dramatiques sur l'embryon et le bébé plus tard. Voilà pourquoi toute grossesse en Afrique ici, il y a tout un programme en faveur des femmes enceintes, que ce soit une première, une deuxième ou voire une dixième grossesse.
Et justement, sur la vulnérabilité des enfants, pourquoi les enfants sont-ils plus à risque, plus exposés face aux conséquences et aux complications du paludisme? Une question de Lamine, docteur Bergès. Lamine nous écoute au Sénégal, il demande pourquoi les enfants sont-ils très vulnérables au paludisme?
Alors, je pense que nous savons tous que les enfants, ce sont des personnes en constitution. Leur immunité, leur développement, tout est en évolution. Et les symptômes du paludisme, prenez ne serait-ce que la fièvre. 41 degrés de fièvre ressenti par un adulte et 41 degrés ressenti chez l'enfant, ce n'est pas forcément les mêmes conséquences. L'enfant, il convulsera beaucoup plus rapidement que l'adulte. Et il y a plein d'autres symptômes. Il y a l'anémie qui est là, il y a les vomissements. Et un enfant qui vomit 4 fois et un adulte qui vomit 4 fois, ce ne sera pas forcément le même état de déshydratation. Voilà, donc les symptômes du paludisme chez l'enfant, c'est à éviter. Voilà, c'est à éviter.
On a une autre question de Labine du Sénégal. Je me tourne vers vous, professeur Bouchot, qui demande tout simplement, c'est quoi la différence entre le paludisme simple et un paludisme grave?
Alors la différence, elle est très simple. C'est un paludisme simple, s'il n'est pas traité à temps, va évoluer pour Plasmodium falciparum, mais on a dit tout à l'heure que c'était le plus fréquent, inexorablement vers un paludisme grave, tout simplement parce que, sans rentrer dans les détails du cycle parasitaire qui est un petit peu complexe, il y a un cycle d'amplification dans les globules rouges du sang qui fait que le nombre de parasites va augmenter très régulièrement, jusqu'à théoriquement aller jusqu'à 100% des globules rouges du corps, ce que l'organisme ne supporte pas. D'ailleurs, il le supporte à un stade bien inférieur. Mmh. Et donc, si on ne traite pas à temps, inexorablement, il va y avoir de plus en plus de globules rouges touchés et de plus en plus les conséquences, et notamment au niveau du cerveau. Et ça va entraîner inexorablement le décès de la personne.
Alors on va tout de suite donner la parole à un auditeur. On rejoint au Tchad Gédéon. Gédéon, bonjour.
Ouais, bonjour Caroline.
Alors vous êtes en ligne de Djamena, Gédéon. Vous êtes atteint du paludisme. Et chez vous, les symptômes reviennent régulièrement. Racontez-nous.
Oui, oui, c'est en 2016, au mois d'août, j'étais tombé malade, atteint du paludisme. Et voilà, j'ai été soigné, mais au même moment, au même mois d'août, j'étais retombé malade. Et là, c'était les mêmes méthodes de traitement. Et ensuite, en 2018, c'est la même chose. Même cette année, au mois d'août, j'étais atteint du paludisme. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que c'est la méthode de traitement là qui n'était pas appropriée ou bien... Je ne comprends pas comment se fait-il qu'à chaque fois, je suis souvent traité avec 3 poches de perfusion accompagnées de quinine. Et on me donne aussi des comprimés altimétrés en relais.
Mmh.
Alors après la prise du traitement, je suis guéri. Mais au même mois d'août de chaque année, la maladie revient.
J'ai une petite question, Gédéon, question très simple. Est-ce que vous dormez sous une moustiquaire imprégnée?
Oui, je dors sous une moustiquaire imprégnée.
Professeur Olivier Bouchaud, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Gédéon qui s'interroge justement sur ces crises à répétition, à la même saison? Qu'est-ce qu'on peut lui dire?
Alors c'est difficile de faire un diagnostic comme à distance sans avoir tous les éléments. J'aurais tendance à dire que l'explication la plus vraisemblable, c'est que ce qui se produit tous les ans au mois d'août n'est pas forcément un paludisme. Gédéon sait, parce qu'il l'a vécu, qu'une crise de paludisme, c'est de la fièvre, des frissons, des douleurs dans les muscles. Et en gros, ça ressemble beaucoup à ce qu'il a probablement aussi déjà vécu, qui est la grippe. Et quand on vit dans un pays où il y a du paludisme, on a un petit peu tendance, dès qu'on a des symptômes de fièvre, à considérer que c'est forcément de la grippe. Or, il y a aucune raison de penser que la première fois qu'on lui a dit qu'il a fait un paludisme, c'était effectivement un paludisme, mais il est très possible que ce qu'il ressent au mois d'août, ça dépend de quel endroit du Tchad il habite, mais enfin qui est la saison des pluies, que là on a plus volontiers des symptômes viraux, des infections virales, grippe ou assimilées, et qu'en fait il ressent un tableau clinique, il ressent des symptômes qui ressemblent au paludisme sans que ce soit le paludisme, parce qu'il n'y a aucune raison, même avec les espèces qui peuvent revenir régulièrement comme on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a aucune raison que ce soit pile toujours au même mois que ça revienne.
Gédéon, à chaque fois que vous avez ressenti ces symptômes fébriles qui ressemblent à du paludisme, est-ce que vous avez fait un test pour vous en assurer ou est-ce que vous avez interprété par rapport justement à ces manifestations? Est-ce que vous avez cru que c'était du paludisme?
À chaque crise, je me rends toujours dans un centre, dans un district sanitaire. C'est là-bas où je suis examiné.
Oui.
Et les résultats donnent le paludisme à chaque fois.
À chaque fois, c'est avéré par un test.
Et quel type, voilà, est-ce que vous savez quel type de test on vous fait?
Bon, je ne comprends pas trop ces lots-là, mais on me fait faire les tests de paludisme et on me dit que je souffre du paludisme. Donc, on m'administre généralement de la perfusion.
C'est un test où vous avez les résultats tout de suite ou il faut attendre un petit peu?
Bon, non, ça ne dure pas plus d'un quart d'heure.
Un test rapide.
Oui, enfin une goutte épaisse, ça peut être fait en un quart d'heure aussi sur les personnes bien entraînées. Après, ça n'est pas impossible, puisque c'est la saison des pluies, ça n'est pas impossible que vous fassiez régulièrement un accès de paludisme, puisque c'est la période de transmission.
Et qu'il y a une nouvelle exposition.
Voilà, bon, cette année, pour éviter la même crise, j'ai décidé de me faire examiner tous les 3 mois et pour pouvoir prévenir cela.
Alors, docteur Bergès d'Amoaliga, on entend Gédéon qui dit qu'il dort sous une moustiquaire imprégnée. Est-ce qu'il y a d'autres conseils au quotidien, justement, pour éviter les piqûres, des choses très simples, des dispositifs à installer dans la maison ou certaines habitudes à changer?
Oui, il y a d'autres dispositifs. Et en Afrique, on les connaît bien. On utilise beaucoup les répulsifs, que ce soit en pulvérisation, que ce soit en crème. Et actuellement, nous avons des chercheurs qui ont mis en place des savons de toilette qui ont une certaine durée dans la répulsion des moustiques. Donc, et aussi, surtout, lutter contre ces points d'eau que nous avons dans notre environnement immédiat. Mmh. Et c'est là où il y a le développement des moustiques. Nous pouvons avoir de l'herbe humide morte à côté et des parcs et des nids de moustiques. Donc, il faut travailler à les détruire et vivre dans un environnement sain.
Éviter les mares, les eaux stagnantes. Et ce qu'on dit bien, c'est que c'est pas parce qu'on se met, par exemple, un savon qu'on ne dort pas sous la moustiquaire. On garde quand même les précautions, ce qui a prouvé scientifiquement qu'il fonctionnait le mieux. Et en l'occurrence, professeur Bouchaud, la moustiquaire imprégnée, c'est vraiment aujourd'hui un outil indispensable de prévention.
Oui, c'est vrai que tout à l'heure, on a évoqué le fait que depuis une vingtaine d'années, il y avait quand même une vraie régression du paludisme, et notamment en Afrique subsaharienne. Et elle est liée à trois outils qui ont été utilisés de façon conjointe. Les moustiquaires imprégnés, l'accès à des traitements efficaces, et notamment grâce aux tests rapides, et puis la destruction des moustiques dans les endroits où ils vivent, et notamment dans les domiciles. Et de ces trois moyens-là, celui qui est de loin le plus efficace, et toutes les études vont dans le même sens, c'est vraiment l'utilisation régulière de la moustiquaire imprégnée pour toute la famille et notamment pour les personnes les plus à risque qui sont les enfants et les femmes et notamment les femmes enceintes.
On remercie Gédéon pour son appel. On va parler justement des femmes enceintes ciblées, également les enfants de moins de 5 ans et on va prendre un autre auditeur en direct.
RFI à Bangui, 99.8 FM.
Dans la capitale centrafricaine, on retrouve Romain, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour à tous les auditeurs.
Alors Romain, vous avez une question, vous, sur le traitement qui est donné aux jeunes enfants. Allez-y.
Oui, dans les mois précédents, on a procédé à une campagne de sensibilisation et de lutte contre les paludisme chez les enfants de 0 à 59 mois. Mm-hmm. Et ceci, jusqu'à là, la maladie persiste de ses mains. Maintenant, quelles sont les mesures efficaces qui peuvent permettre de lutter contre cette maladie?
Pour les enfants en particulier?
Oui.
On a parlé tout à l'heure des moustiquaires imprégnés. On a évoqué justement ces mesures importantes avec le professeur Bouchot. Professeur, si vous voulez bien justement revenir sur ce traitement préventif qui est donné aux enfants dans certaines régions, de quoi s'agit-il?
Alors, je vais faire un tout petit préalable pour qu'on comprenne bien. Les enfants sont particulièrement sensibles au paludisme pour les raisons qu'a donné ma collègue, mais également pour une raison liée à l'immunité. C'est-à-dire que quand on est confronté très régulièrement à des piqûres de moustiques qui transmettent le paludisme, au bout d'un certain temps, le système immunitaire du corps développe une immunité, donc une protection qui n'est pas parfaite, qui n'est pas complète, comme on peut le voir dans d'autres maladies infectieuses, mais qui permet de réduire la multiplication des parasites dans le sang et qui permet, on va dire, d'atténuer la maladie. En Afrique centrale, où il y a un régime de pluie et d'humidité qui fait que les moustiques pullulent toute l'année et que donc on est piqué toute l'année, cette immunité s'acquiert assez vite. Il faut à peu près 5 ans pour que les enfants acquièrent cette immunité. Et on n'utilise pas de traitement préventif. On parle de santé publique, hein, on ne parle pas de cas individuels. On n'utilise pas de traitement préventif parce que si on utilisait les traitements préventifs, ça empêcherait l'acquisition de cette immunité. Et c'est une protection naturelle qui est très bénéfique pour les enfants et pour la population de façon générale. Par contre, dans les pays, notamment en zone sahélienne, où la saison des pluies est très ponctuelle et où les enfants et la population n'est pas piquée très régulièrement et donc n'est pas au contact du parasite très régulièrement, cette immunité est beaucoup plus difficile à acquérir. Et dans ce cas-là, on utilise des traitements préventifs pour permettre aux enfants, notamment ces enfants les plus jeunes, qui sont les plus fragiles, pour leur permettre d'éviter de faire des paludismes et donc les formes graves.
Un petit peu à l'image que ce que font les voyageurs, puisqu'ils sont eux pas exposés, ils arrivent sur un terrain où il peut y avoir des piqûres, et aussi ils prennent un traitement préventif.
Alors,
c'est pas le même traitement,
c'est le même principe, c'est pas tout à fait la même façon de faire, puisque dans ce qu'on appelle les traitements préventifs intermittents, qui sont un peu du même type que ceux qu'on donne aux femmes enceintes, on donne un traitement curatif, c'est-à-dire on fait comme si les personnes étaient infectées par le parasite, et donc on donne un traitement complet, un traitement curatif pour déparasiter le sang, alors que chez les voyageurs, on donne des doses très faible pour éviter que le parasite, s'il a été injecté par l'anophèle, ne se développe et entraîne cette montée en puissance du nombre de globules rouges infectés.
Docteur Bergès, une dernière question justement sur le traitement préventif chez les enfants. C'est quelque chose qui se pratique chez vous?
Oui, c'est quelque chose qui se pratique depuis pas mal d'années et qui a montré son efficacité dans la prévention. Et c'est vrai que c'était en périphérie de Ouagadougou et depuis quelques années, Ouagadougou est impliqué pour les enfants de 0 à 59 mois pendant une certaine période à partir de juin. Voilà, il y a une tournée. Mais ce que je voulais aussi ajouter, c'est que c'est vrai qu'il y a cet effort qui est fait, mais il faut aussi la sensibilisation pour que les uns et les autres comprennent davantage l'importance et accepte donner à leurs enfants. Parce que des fois, il y a le passage des agents de santé, les populations prennent, mais il y en a qui ne donnent pas à leurs enfants. Donc, pourtant, ce sont des
Alors, justement, comment faire, docteur Bergès, pour faire mieux passer le message? Là, on en parle aujourd'hui dans priorité, mais pour, par exemple, avertir les mamans, les papas, que, eh bien, ce traitement, il peut vraiment être bénéfique pour l'avenir de leurs enfants. Comment bien faire passer le message? Il faut aussi s'appuyer sur les supports communautaires, sur les chefs de village. Comment on fait?
Mais oui, absolument. Et il y a même les agents à base communautaire que nous avons et qui accompagnent les acteurs sur le terrain dans ce sens. Voilà. Donc, c'est assez important. Et ce sont des, ça a été expérimenté, ça a fait ses preuves. Et voilà pourquoi on le vulgarise. Donc, on ne veut pas rendre malades les enfants parce que les parents ont l'appréhension des effets secondaires des molécules utilisées. Et tout. Mais le bénéfice est très important.
Le bénéfice est supérieur. Merci beaucoup, docteur Bergès, d'avoir pris de votre temps pour répondre à ces questions en direct dans Priorité Santé. Très bonne journée à Ouaga. On a une question, professeur Bouchaud, d'une maman inquiète, c'est Rosette au Cameroun. Elle dit « J'ai deux petits garçons, lorsque j'ai la sensation qu'ils ont été piqués par des moustiques, j'entre en stress, stress permanent qui affecte même mon sommeil. Le petit a 2 ans, l'autre a 12 ans. Celui de 12 ans a du mal à dormir sous la moustiquaire. Il y a aussi le message à faire passer, même quand on a les moyens, on a l'équipement, c'est pas toujours évident. Comment justement une maman peut-elle appréhender ce risque de santé plus sereinement ?
Alors c'est compliqué parce que les mamans, c'est un petit peu leur fonction de s'inquiéter de la santé de leurs enfants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les moustiques ne transmettent pas le paludisme. Et d'ailleurs, la plupart des moustiques que l'on voit autour de soi, qui font du bruit, qui font mal quand ils piquent, qu'on appelle couramment des culex, mais peu importe les termes scientifiques, sont des moustiques qui ne transmettent pas le paludisme. Alors que les anopheles sont des moustiques plus petits, qui font pas de bruit quand ils volent, qui ne font pas mal quand ils piquent, et souvent, quand on est piqué par les anopheles, on s'en rend pas compte. Donc je pense que cette maman s'inquiète un petit peu à tort de piqûres de moustiques qui ne transmettent pas le paludisme. Alors après, il y en a quand même qui piquent, puisqu'autrement le paludisme n'existerait pas, et malheureusement, ça n'est pas le cas. Et je crois que l'important, c'est qu'elle soit très vigilante sur la fièvre, puisque c'est quand même le maître symptôme du paludisme, et que dès que l'un de ses enfants a de la fièvre, il faut aller consulter très vite. Alors tout dépend dans quel contexte elle vit et si elle a un accès facile à un endroit fiable pour avoir un diagnostic de bonne qualité. Mais dans la plupart des centres de santé, les tests rapides sont très fiables et très efficaces. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller dans un centre de santé. C'est d'ailleurs le bon réflexe pour faire le diagnostic et donner le traitement si le diagnostic est positif.
Alors, prévention pour certains auditeurs, solution, on va dire, maison. Hein, c'est un peu ce que vous faites, Gédéon. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour professeur.
Gédéon en ligne de Kinshasa, racontez-nous votre recette pour éviter les crises ou les complications du paludisme. Qu'est-ce que vous faites?
Alors, grâce au conseil d'un cousin, je prends généralement dans l'intervalle de 45 jours, pendant 5 jours, une cure de quinine en raison d'un comprimé le matin et d'un comprimé le soir. Alors, je voulais savoir si cela est mauvais pour la santé ou bien c'est une solution qui passe.
Votre cousin, Gédéon, il a une formation dans le domaine de la santé?
Non, c'est un juriste.
Et c'est parce qu'il a testé sur lui-même et il a trouvé ça efficace?
Ouais.
Et vous disiez cure de quinine, sous quelle forme? Vous avez parlé de cachet, de quoi s'agit-il exactement?
Des comprimés de 500 mg. Donc, un comprimé le matin et un comprimé le soir.
Le nom de ce médicament, c'est quoi?
La quinine.
Quinine. C'est pas un autre médicament qui est vendu par un laboratoire et qui a un nom spécifique?
Non, le laboratoire, c'est Pharmakine.
Et c'est une production locale du Congo?
Ouais.
D'accord. Professeur Olivier Bouchaud, qu'est-ce que vous en pensez, cette cure de prévention à base de quinine que s'administre Gédéon depuis des années?
Alors j'aurais tendance à conseiller à Gédéon d'abandonner cette façon de faire. Pour deux raisons. La première raison, c'est que d'abord, il utilise la quinine à une dose qui est insuffisante, parce que j'imagine que Gédéon doit peser autour de 70-75 kilos, et donc ça n'est pas la dose qui correspond, c'est une dose insuffisante. Et si jamais il a du parasite dans le sang, ce qui est possible, puisque dans les endroits comme Kinshasa et comme le Congo en général, n'oublions pas que le Congo est le deuxième pays au monde le plus touché par le paludisme après le Nigeria. On est dans cette situation où il y a une transmission toute l'année. Alors peut-être un petit peu moins à Kinshasa, mais en milieu rural, c'est le cas. Et si on prend de la quinine à dose insuffisante, et si on a des parasites dans le sang sans avoir des symptômes, on peut favoriser ce qu'on appelle la résistance, c'est-à-dire le fait que le médicament va perdre de son intérêt, à la fois pour Gédéon lui-même, mais aussi ce sont des parasites qui vont être moins touchés par la quinine et qui vont être transmis ensuite à d'autres personnes. Par ailleurs, faire une cure comme ça de façon un peu épisodique à une dose insuffisante l'expose, s'il le fait régulièrement, à ce qu'il y ait une espèce de, ce qu'on appelle dans notre jargon une sensibilisation, c'est-à-dire une espèce d'induction d'une forme d'allergie qui peut déclencher des complications très graves, ce qu'on appelle la fièvre bilieuse hémoglobinurique, qui est une espèce, alors c'est un nom barbare qui veut seulement dire que le sang se met à se liquéfier, à s'autodétruire dans les vaisseaux, et ça peut entraîner des anémies très brutales. Et donc c'est une deuxième raison pour laquelle il vaut mieux ne pas utiliser ce type de traitement que j'appellerais empirique, et qui ne correspond pas à quelque chose qui a été évalué et qui montre que ça peut apporter un bénéfice.
Gédéon, une question personnelle. Vous dormez sous une moustiquaire imprégnée ?
Oui, oui.
Donc c'est ma question du jour. Et ces conseils du professeur Bouchot, vous êtes prêt à renoncer justement à ce traitement maison que vous prenez régulièrement ?
Oui, oui, je suis prêt. Alors, qu'est-ce qui m'étudiait alors à la place de ce que je faisais avant ?
Alors, ce que je vous conseille, c'est ce que Caroline vient de vous suggérer, c'est-à-dire de dormir systématiquement sous moustiquaire imprégné, enfin vous et votre famille. Et puis, si vous avez de la fièvre, parce que la moustiquaire n'a pas 100% d'efficacité, non pas parce qu'elle n'est pas efficace en tant que telle, mais vous pouvez pas passer votre vie et toute votre soirée, puisque chacun sait que le paludisme se transmet la nuit, mais vous pouvez pas passer toute votre nuit,
quand
toute votre soirée.
Quand on dîne le soir, forcément, voilà. On peut se faire piquer aussi.
Exactement, même si c'est plutôt en deuxième partie de nuit qu'il y a le plus de transmission. Et donc le bon réflexe, c'est que dès que vous avez de la fièvre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'autre auditeur, dès que vous avez de la fièvre, allez tout de suite dans un centre de santé pour vous faire un diagnostic et recevoir le bon traitement.
Très bonne journée, Gédéon à Kinshasa. On le disait, beaucoup d'appels de RDC, 12% des cas de paludisme au niveau mondial justement, c'est ce pays, la RDC, 25% le Nigeria, 5% l'Ouganda. On comprend que ce soit la première cause d'hospitalisation et de mortalité dans de nombreux pays de la région. Un témoignage, c'est celui de Félix. Félix, vous êtes en ligne de Chicapa, où vous écoutez Priorité Santé. Qu'est-ce qu'on fait de par chez vous pour lutter contre le palu?
Bonjour Caroline, bonjour professeur. Eh bien, parlant justement de la prévention et de la moustiquaire imprégnée, le gouvernement, notre gouvernement, avec l'aide des partenaires internationaux, distribue gratuitement des moustiquaires imprégnés et conseille à tout le monde d'y dormir. Mais le problème est que moi, je n'ai toujours pas compris cette méthode de conseil des moustiquaires, puisque si je prends mon cas, je travaille. Je rentre souvent le soir, tard le soir à la maison, 23h, minuit, et je n'ai pas vraiment trop de temps à dormir sous la moustiquaire. Et il y a des fois même, puisque je travaille en shift tournant, il y a des fois même je passe la nuit au travail, donc vous comprenez qu'au travail, je ne peux pas mettre la moustiquaire, donc à la merci des moustiques, et du coup, je tombe souvent malade, et même les enfants, puisque... Et même si les rares des fois qu'il m'arrive de dormir sous la moustiquaire ou de dormir à la maison, mais dès que je mets pied à l'extérieur de la moustiquaire, je suis à la merci des moustiques et du tout. Donc notre environnement est pollué, insalubre, Et voilà tout. Donc,
ça n'enlève pas, Félix, l'efficacité de la moustiquaire. Ce qu'il y a, c'est que vous, dans votre quotidien, dans votre organisation de tous les jours, eh ben, c'est pas simple de dormir sous cette moustiquaire, de par aussi vos horaires, de passer du temps. Mais par contre, vos enfants, ils dorment à la maison. Eux, ils peuvent dormir sous la moustiquaire.
Bien entendu, mais le problème est que, comme je disais tantôt, c'est-à-dire qu'ils dorment sous la moustiquaire. Mais juste à l'extérieur de la moustiquaire, même dans la maison, dans la chambre, et les moustiques gravitent tout autour. Donc, dès que vous mettez pied dehors la moustiquaire, ils vous sautent dessus.
Bien évidemment.
Voilà, donc c'est pour cela que de temps en temps, même moi, même mes enfants, ils tombent souvent malades et puis... Et c'est dit à les célébrités de la ville, de l'environnement, du pays.
Parce que vous, voilà. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faudrait davantage de mesures, par exemple, au niveau de l'hygiène, de l'assainissement. Vous trouvez que les pouvoirs publics n'en font pas assez autour de chez vous pour améliorer le cadre de vie des habitants?
Voilà, c'est ça. Et cette méthode d'assainissement des milieux a marché, je crois, ailleurs, dans d'autres pays, même en Europe. On est arrivé à éradiquer le paludisme suite à l'assainissement des milieux. Et je ne vois pas pourquoi, ici chez nous, on doit s'obstiner à cette méthode inefficace de la moustiquaire imprégnée, pendant que tout autour de nous, les milieux n'est pas assaini, les milieux n'est pas propre.
Félix, encore une fois, ça ne veut pas dire que la moustiquaire est inefficace. Ça veut dire que les conditions de vie ne permettent pas toujours, on ne va pas vivre sous une moustiquaire, on l'a bien compris, mais ce n'est pas parce que vous ne vivez pas sous la moustiquaire que faire dormir des enfants sous une moustiquaire, dormir quand on le peut sous une moustiquaire, ça limite quand même de façon considérable le temps d'exposition. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il faut les deux, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut les deux.
Voilà.
C'est ça qui est important.
Il faut les deux. Et le professeur disait tantôt, l'autre Agédéon de Dakar, qu'il y a même trois méthodes, donc la moustiquaire, la lutte contre l'insalubrité, et les traitements.
Absolument.
Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, on nous dit moustiquaire, point barre. Pendant que les traitements, tout le monde n'a pas accès à ces traitements. Et les milieux salibres, on se limite à la moustiquaire et du coup, la moustiquaire devient moins efficace.
Et on comprend tout à fait justement votre, on va dire, coup de gueule parce que c'est normal aussi, une moustiquaire, ça ne suffit pas. On va dire que dans certains cas, c'est un peu mettre un pansement sur une jambe de bois. Il faut aller ensemble, il faut avoir les traitements, il faut aussi que les pouvoirs publics s'engagent. Et on peut dire, professeur Bouchot, que dans de nombreuses régions du monde, l'assainissement et la lutte contre le paludisme, c'est pas la priorité numéro un.
Alors oui, parce qu'en fait, ce que dit cet auditeur, c'est que au-delà de la moustiquaire, quand on en sort, on peut se faire piquer. Et il y a un moyen pour éviter ça, qui est ce qu'on appelle l'épandage intradomiciliaire d'insecticides, qui consiste à déposer sur les murs des logements. Parfois même, ça peut s'intégrer dans la peinture, un produit insecticide qui a un effet qui dure plusieurs mois, et même maintenant plusieurs années, et qui permet de quasi démoustiquer de façon en sorte qu'il n'y ait plus de moustiques à l'intérieur de la maison. Et dans ce cas-là, quand on sort de la moustiquaire, la probabilité qu'on se fasse piquer pour un moustique devient extrêmement faible, et donc c'est beaucoup plus efficace. Mais ça coûte cher. Ça nécessite d'avoir des équipes compétentes qui sont équipées comme il faut. Et beaucoup de ministères de la Santé ne mettent pas l'énergie suffisante pour utiliser ces moyens qui sont malgré tout très, très efficaces.
Il y a des ONG qui organisent des campagnes
ponctuelles, mais pas
au niveau des pouvoirs publics.
L'OMS le pousse beaucoup, mais s'il n'y a pas une vraie volonté politique d'améliorer la vie au quotidien, avec tous les freins que chacun d'entre vous connaisse bien mieux que moi, effectivement, c'est pas toujours très bien fait.
On va prendre un dernier auditeur en ligne. On franchit le fleuve, on va à Brazzaville, au Congo, où on retrouve Dieudonné. Bonjour.
Bonjour, Madame Caroline Paré. Bonjour, docteur.
Alors, vous aussi, vous êtes concerné par le paludisme, mais vous avez une question là sur la recherche et sur les vaccins. Expliquez-nous.
D'accord. J'ai une question. Ma question est de savoir, quand j'essaie un peu de faire une étude comparative par rapport aux morts dues à la COVID et les morts dues au paludisme, je me suis dit, mais pourquoi, quand j'essaie un peu de regarder, je trouve qu'en Afrique, il y a un bon nombre de morts dues au paludisme et les morts dues au COVID. Et j'ai vu que les chercheurs se sont activés pour avoir le vaccin contre la COVID, dans une année, on a eu le vaccin. Mais pourquoi pas avec le palu, depuis ça fait longtemps, il y a autant de morts, on met plus de 450 000 morts par an. Mm. Il n'y a aucun chercheur qui pense, pour avoir le vaccin, en fait, de mettre un point à cette maladie vraiment qui cause beaucoup de morts.
Dieudonné, on va vous répondre oui et non, je pense, parce que vous dites aucun chercheur n'essaye. Là, professeur Bouchot, vous allez dire non. Par contre, trouver une solution pour l'instant, eh bien, hélas, elle n'est pas encore à portée de main.
Non, elle est malheureusement pas à portée de main et ça a été une très grosse déception parce qu'il y a un vaccin contre le paludisme qui a donné beaucoup d'espoir tout récemment et qui malheureusement n'a pas exaucé ses espoirs. Alors, je comprends que ce soit extrêmement troublant de voir qu'en un an, on a trouvé un vaccin contre le Covid et que ça fait 50 ans qu'on cherche pour le paludisme, ça fait 30 ans qu'on cherche pour le sida, ça fait une cinquantaine d'années qu'on cherche aussi pour la tuberculose et qu'on n'arrive pas à mettre au point un vaccin. En fait, pour simplifier un petit peu les choses, parce que c'est pas aussi simple que ce que je vais dire, mais malgré tout, c'est en grande partie vrai, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, qui est que le parasite du paludisme est un parasite qui change sans arrêt. Sa configuration, ce qu'on appelle les mutations, sont permanentes, et le principe d'un vaccin, c'est d'utiliser une des protéines, donc un des constituants du parasite, pour entraîner une réaction immunitaire de l'immunité de la personne à qui on injecte le vaccin. Mais pour que cette réaction immunitaire se fasse, il faut que la protéine qui déclenche la réaction immunitaire soit stable. Or, pour le paludisme, comme pour le virus du sida, et comme pour la bactérie et la tuberculose, cette protéine, elle change sans arrêt, ce qui fait que la cible vaccinale échappe. Alors que pour le coronavirus, même si on parle de variants, mais qui sont très mineurs, pour le coronavirus, la cible vaccinale, qui est cette fameuse protéine spike, dont tout le monde a entendu parler maintenant, elle est stable ou relativement stable.
J'ai osé une image, je veux dire que pour le paludisme, le parasite se déguise et le vaccin ne le reconnaît pas.
Exactement, il se déguise et il change de déguisement sans arrêt. Mmh. Et donc l'image est tout à fait cohérente avec la réalité.
Mais en tout cas, pour rassurer cet auditeur Dieudonné, les chercheurs sont au travail aussi pour le paludisme. On n'abandonne pas les populations qui sont atteintes de cette maladie, bien au contraire. On essaye de trouver des solutions, même si pour l'instant, on n'a que de l'espoir et on n'a pas de solution.
Oui, et il faut vraiment savoir qu'il y a beaucoup d'équipes de chercheurs dans le monde qui travaillent sur le vaccin du paludisme, qu'il y a d'énormes sommes qui ont été investies et que ça n'est pas une volonté de ne pas trouver un vaccin contre le parasite. Alors, on peut toujours dire qu'on pourrait mettre plus de moyens.
Et ouais,
on
les moyens sont peut-être pas à la hauteur.
Voilà, ça c'est sûr. Peut-être que ça permettrait d'aller malgré tout un peu plus vite, mais réellement, il y a une difficulté qui est propre à l'agent au parasite du paludisme. Et que, heureusement, on n'a pas avec le virus du Covid.
Merci beaucoup. Merci pour votre appel, Dieudonné. Excellente journée à Brazzaville. Et on vous remercie infiniment, professeur Olivier Bouchot, d'avoir répondu à toutes ces questions des auditeurs aujourd'hui dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et on va parler d'une étude, d'un essai qui concerne une autre maladie transmise par les moustiques. On va dire que c'est les sales bêtes du jour dans notre émission. Aujourd'hui, un virus, c'est celui de la fièvre jaune. On le sait, le vaccin est obligatoire pour se rendre dans de très nombreux pays du monde, la plupart des États d'Afrique subsaharienne, certaines régions d'Amérique du Sud. Avec là une problématique qui colle à la réalité. Comment faire face à une pénurie de vaccins quand on est en situation de pic épidémique, d'épidémie de fièvre jaune? Un essai a donc été conduit au Kenya. On vous retrouve en ligne, Rebecca Gray, bonjour.
Oui, bonjour. Merci Caroline d'avoir m'avoir dans ma mission. C'est très gentil.
Alors, vous êtes directrice de recherche à Epicentre pour MSF. Vous avez travaillé sur cet essai qui est conduit aussi avec l'Institut Pasteur de Dakar et l'OMS. Alors, il s'agit d'administrer une petite dose, en fait une dose partielle de vaccin. À quoi est-ce que ça sert?
Oui, et je pense que vous avez mentionné ça tout à l'heure. Donc la fièvre jaune est une maladie hémorragique virale aiguë. Et en fait, effectivement, c'est transmis par les moustiques. Et le jaune dans le nom, en fait, ça réfère à la jaunisse qui affecte certaines patients. Et malheureusement, il n'y a pas de remède contre la fièvre jaune. Et donc la prévention est donc extrêmement importante. Et une seule dose de vaccin peut protéger une personne à vie, comme vous avez mentionné. Mais malheureusement, la production prend environ 12 mois, à peu près une année, et qu'il est très difficile à prévoir les quantités qui seront nécessaires de vaccins chaque année pour répondre aux flambées. Et donc, à cause de ça, il y a souvent des pénuries de vaccins. Et ça, ça signifie en fait que la capacité de production ne peut pas répondre aux besoins mondiaux pendant les épidémies. Et c'est ça qui laisse en fait les gens sans protection. Et les gens, les ministères, les ONG, les autres personnes qui livrent le vaccin un peu avec les mains vides pendant les périodes où les vaccins sont le plus nécessaires.
Et cette situation de pénurie, est-ce qu'on l'a observée récemment? Est-ce qu'on a été justement en situation où finalement on n'avait plus assez de produits à injecter aux populations en situation de risque?
C'est exactement ça. Et en fait, en 2016, en Angola et en RDC en particulier, il y avait eu des épidémies de fièvre jaune où en fait, il n'y avait pas assez de vaccins à couvrir la population qui était à risque. Et de faire face à ça, il y avait l'OMS avait revoir toutes les données existantes sur l'immunogénicité des doses de vaccins contre la fièvre jaune. Et il y avait certaines études qui existaient. En fait, ils étaient venus d'Afrique du Sud avec un des seuls vaccins qui est produit par Biomingenios au Brésil, qui avait montré qu'il y avait une réponse immunitaire non inférieure à une dose complète ou standard parmi certaines personnes. Et ensuite de ça, le vaccin a une cinquième, c'est-à-dire une dose fractionnée, était livrée à peu près 7,5 millions d'adultes et enfants non enceintes en Angola et en RDC.
Rebecca Grace, excusez-moi, en fait, on fait des économies sur la quantité. Il y a une question qui se pose logiquement. On dit en cas de crise difficile de produire des vaccins parce que ça prend du temps. Mais pourquoi on ne produit pas tout simplement plus de vaccins, quitte à en perdre, et pour ne pas se retrouver en situation de pénurie?
C'est une bonne question. Donc, le vaccin fièvre jaune est en fait un des vaccins les plus anciens. C'était créé en fait dans les années 30.
Il nous reste une trentaine de secondes. Donc, simplement, c'est réponse à cette question. Pourquoi est-ce qu'on n'en produit pas plus?
Bonne question, mais on n'a pas besoin de produire plus si on peut utiliser une cinquième de la dose, ça étant en fait le stock actuel. Et en fait, c'est cette étude qui était en Ouganda et Kenya qui montre en fait qu'on peut diviser, utiliser une dose fractionnée de vaccin à couvrir toutes les personnes à risque et surtout les personnes en Afrique.
Et donc, c'est quelque chose qui est prometteur, surtout en cas de crise, on l'a bien compris, pour protéger les populations. Je vous remercie beaucoup pour ces explications, Rebecca Grace. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à Epicentre pour MSF. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise Priorité Santé. À Setoussama Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurent Hérault. Demain, nous allons parler des conséquences pour la santé du mariage forcé, mariage précoce, conséquences pour la santé physique et mentale des jeunes femmes, des jeunes filles. Vos questions, vos témoignages. D'ici là, portez-vous bien, à demain et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Sunou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce digitalement innovante. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.